France Culture.
Le journal est signé Nicolas Ballu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. On ne l'avait pas vu, aveu du Premier ministre François Bayrou. Le gouvernement a fait marche arrière et va reprendre les discussions avec les organisations professionnelles après la suspension de la baisse du seuil d'exemption de la TVA. Explication du couac gouvernemental avec Rosalie Lafarge. Après le budget, l'immigration devient l'un des grands thèmes de l'exécutif. L'idée d'un débat sur l'identité française refait surface, nous dira Stéphane Robert. Le sommet sur l'intelligence artificielle débute lundi avec au préalable des tables rondes scientifiques et un week-end consacré à la culture face à l'intelligence artificielle. Nous irons voir les artistes qui s'inquiètent pour leurs droits d'auteur, notamment. Les sanctions de Donald Trump contre la Cour pénale internationale provoquent un tollé. Les réactions dans ce journal. Et puis, l'ONU va enquêter sur les atrocités commises en République démocratique du Congo. L'ONU qui craint que le conflit ne dégénère en guerre régionale. On prend les mêmes et on recommence. Le gouvernement a annoncé en fin de matinée une concertation sur le seuil d'exemption de TVA et se dit prêt à ajuster sa mesure si nécessaire. Le budget 2025, adopté à l'aide de l'article 49.3, prévoyait d'abaisser dès le 1er mars à 25 000 euros de chiffre d'affaires annuel, le seuil en dessous duquel les micro-entreprises ne sont pas assujetties à la TVA. 25 000 euros contre 37 500 aujourd'hui pour les prestations de services, par exemple. Des centaines de milliers d'auto-entrepreneurs sont concernés. La mobilisation de politiques de tous bords et d'organisations professionnelles a payé. Le gouvernement a annoncé hier la suspension de la baisse du seuil d'exemption de TVA dont bénéficient les micro-entrepreneurs. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir Nicolas.
L'exécutif le reconnaît aujourd'hui, un peu embarrassé, il n'a pas repéré le potentiel explosif de cette mesure.
On ne l'avait pas vu, admet franchement le Premier ministre François Bayrou, explique que l'analyse n'a pas été suffisante et quand on se trompe, il faut le dire, ajoute encore sur RMC ce matin le toujours maire de Pau pour justifier la suspension de la mesure. Mais il n'est pas le seul, François Bayrou, à ne pas avoir vu cette disposition ou en tout cas pas anticiper la gronde du secteur concerné. C'est l'effet censure, jure un député à droite. Ces quelques lignes noyées au milieu d'un article du texte apparaissent en fait sous Michel Barnier, Laurent Saint-Martin, alors ministre du Budget, les introduit par amendement au Sénat, c'est d'abord rejeté, puis adopté après seconde délibération. Quand le gouvernement Bayrou reprend le budget Barnier, la mesure est toujours là. On ne s'est pas dit que ça n'avait pas été concerté, met en avant un conseiller à Bercy, et personne ne nous alerte précisément sur ce point, ni les parlementaires, ni les fédérations, poursuit-il. Même chose en commission mixte paritaire. On a certainement manqué de vigilance, mais ça n'a pas fait de débat, assure un de ses membres. La vérité, c'est que personne ne lit les dispositions des articles, concède un collaborateur. Et puis le contexte joue. Comme ça n'a pas soulevé les foules la première fois, que le RN voulait au départ aller encore plus loin et que l'insoumis Jean-Luc Mélenchon a régulièrement critiqué le statut d'auto-entrepreneur, on a dû croire que ça passerait, décrypte un élu du Bloc central, là où un autre se fait moins tendre. Quand on essaie de faire atterrir un budget difficile, c'est le concours des mesures à la con, tranche ce député, qui voit d'autres bêtises de techno, c'est son expression, passer pour l'instant inaperçue dans ce budget, sur les jeunes entreprises innovantes ou les doctorants. Par exemple, s'il faut hurler un peu pour les voir suspendus, ça donne envie de tenter le coup, souffle un centriste, sans exclure de lancer lui-même une nouvelle mobilisation.
Le gouvernement semble plus en pointe sur le sujet de l'immigration, surtout depuis l'adoption du budget. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé quelques mesures tout à l'heure pour mieux lutter contre les réseaux de passeurs, avec notamment la création d'une cellule d'échange et de renseignements entre les ministères des Armées, de l'Intérieur et de l'Économie. Plus de 4000 passeurs ont été interpellés en 2024, selon l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants. Et puis le gouvernement relance l'idée d'un débat lié à l'immigration et à l'identité. Au départ, la suggestion du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui propose un débat sur le droit du sol. Rappelons qu'hier, l'Assemblée nationale a adopté lors d'une séance houleuse une proposition de loi portée par la droite destinée à durcir les restrictions au droit du sol à Mayotte. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Nicolas.
François Bayrou, lui, juge trop étroit un débat sur le sujet. Le Premier ministre veut l'élargir à l'identité française.
Oui, c'est ce qu'il a déclaré ce matin dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC. Plutôt qu'un débat centré uniquement sur le droit du sol, il faut l'élargir à l'identité nationale, a dit François Bayrou.
Vous voyez bien ce qui fermente depuis des années. Ce qui fermente, c'est qu'est-ce que c'est qu'être français ? Qu'est-ce que ça donne comme droit ? Qu'est-ce que ça impose comme devoir ? C'est un débat qui, depuis au moins 30 ans, est en fermentation dans la société française. Et il n'y a pas de raison de repousser éternellement.
En disant cela, le Premier ministre essaie à la fois de répondre à une préoccupation qui s'exprime de plus en plus dans les enquêtes d'opinion et de ménager la droite et la gauche de l'échiquier politique sur une question particulièrement sensible. Dans l'opinion, déjà, le sentiment que l'immigration n'est pas suffisamment contrôlée en France et qu'il faut davantage la maîtriser domine très largement. Les propos de François Bayrou sur le sentiment de submersion migratoire étaient approuvés par 2 personnes interrogées sur 3 selon un sondage Elabe réalisé fin janvier. Quant à la suppression du droit du sol à Mayotte, elle est approuvée à 75%. C'est une des raisons pour lesquelles la droite est très en pointe sur cette question, de Gérald Darmanin à Bruno Retailleau, en passant par Laurent Wauquiez. Si on abandonne cette question au Rassemblement National, estime-t-il, on lui offre un boulevard électoral. Mais cette mesure est particulièrement épidermique à gauche. On l'a vu hier à l'Assemblée nationale, vous l'avez dit, avec les discussions sur une proposition de loi des Républicains restreignant le droit du sol à Mayotte. Elle a été combattue pied à pied par l'ensemble des forces de gauche qui y voient la remise en cause de l'un des principes fondateurs de la République. C'est la raison pour laquelle François Bayrou dit vouloir déporter le débat sur le droit du sol en l'élargissant à un débat sur l'identité nationale. Une proposition approuvée par le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, cet après-midi. Ce n'est pas tabou, écrit-il. En revanche, elle a fait bondir cette proposition une nouvelle fois, Jean-Luc Mélenchon.
Merci Stéphane Robert. Un ancien président de la République qui porte un bracelet électronique, c'était évidemment du jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Un agent de l'administration pénitentiaire est venu poser le bracelet électronique à la cheville de Nicolas Sarkozy, condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire des écoutes. L'ancien chef de l'État peut s'absenter de son domicile entre 8h et 20h, 21h30 certains jours lorsqu'il se rend au procès des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Et puis l'ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt, est condamné en appel pour favoritisme dans l'attribution du marché de l'eau à Annonay en 2009. À l'époque, il était maire de la commune. Il est condamné à 15 000 € d'amende. Après un volet culturel avec des expositions, ateliers et débats à la Bibliothèque nationale de France et la Conciergerie tout ce week-end, le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle se tient à Paris les 10 et 11 février, c'est-à-dire lundi et mardi prochain. Reste qu'il va s'ouvrir sur fond d'inquiétude des artistes ou des créateurs. Les organisations de défense des droits d'auteur attendent des réponses concrètes aux obligations gravées dans l'IA Act, on va le dire en français, ce règlement européen premier du genre au monde a été adopté en 2024. Bonsoir Benoît Grossin.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes et à tous.
L'entrée en application de cet IA Act qui vient de débuter le 2 février par des interdictions relatives au système d'IA présentant des risques inacceptables, eh bien cette entrée en application va être progressive avec des obligations pour les entreprises de la tech.
Oui, et d'ici le début du mois d'août, les fabricants d'IA devront notamment être transparents sur les sources d'entraînement de leurs modèles. Selon la juriste Alexandra Bensamoun, chargée par la ministre de la Culture Rachida Dati de plancher sur la mise en œuvre de ce règlement européen.
La transparence, c'est en réalité un levier vers la rémunération. Les fournisseurs d'IA sont finalement les seuls à pouvoir lever le capot. Le texte européen n'est pas très clair. Il a été adopté dans un contexte de lobbying intense. Il s'avère que le résumé suffisamment détaillé, puisque c'est ça l'expression du règlement, peut être éclairé, puisque à un endroit, le règlement nous dit que cette disposition, elle a une finalité, c'est permettre l'exercice des droits.
Mais du côté des organisations de défense des droits d'auteur, Pascal Regard, directeur de la SACD, se méfie de possibles freins à la transparence.
Il y a des tas de dispositions qui opposent toujours à cette transparence le secret des affaires. Nous avons écrit à toutes ces entreprises et elles nous ont toutes répondu. Nous n'avons jamais utilisé les données de vos répertoires. Et en réalité, c'est complètement faux parce qu'ils ont clairement eu accès à ces données. Pour le moment, ils ne veulent pas reconnaître l'application d'un principe de droit d'auteur qui est assez simple. C'est quand on utilise ce droit, on doit avoir une autorisation et ensuite on doit avoir une rémunération.
Et pour cette question cruciale de la rémunération, la piste d'une gestion collective des droits dans l'IA pourrait être explorée, sachant que des contrats commencent à être conclus directement, comme celui passé récemment entre la start-up française Mistral et l'agence France Presse.
Merci. La presse française, dans une tribune qui a appelé aussi les pouvoirs publics à imposer un dialogue structurel entre les opérateurs d'IA générative et les médias. Merci Benoît Grossin, IA et culture. Votre dossier complet sur la transparence et les droits d'auteur est à retrouver dans la rubrique l'info culturelle. C'est en une du site internet de France Culture. Et puis, toujours concernant l'IA, eh bien Emmanuel Macron dit ce soir, ce sommet acte un réveil européen. Voilà, on apprend également que la banque publique BPI France investira 10 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle d'ici 2029. L'intelligence artificielle, c'est une arme géopolitique. Et c'est la série audio de la rédaction que vous pouvez écouter depuis ce matin en une de notre site franceculture.fr et depuis l'application Radio France. Ce soir, Kiev dit espérer que les sanctions de Donald Trump contre la Cour pénale internationale n'affectera pas la capacité de la Cour à rendre justice aux victimes de l'agression russe, je cite. Des sanctions contre des magistrats de la Cour pénale internationale qui créent beaucoup de remous partout dans le monde. Cette Cour a notamment pour mission de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Son procureur avait notamment lancé en novembre dernier un mandat d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Une attaque contre un allié proche, estime Donald Trump, qui s'engage donc dans la voie des sanctions financières contre le personnel de la CPI, voire interdiction de visa, le tout au grand dam de l'Union européenne. Fabien Cazot, à Bruxelles.
Au Parlement européen, ce sont les groupes politiques de gauche et du centre qui donnent de la voix. L'eurodéputée socialiste Chloé Ridel a justement participé à une mission parlementaire à la CPI il y a quelques mois. Le sujet lui tient particulièrement à cœur.
C'est une intimidation contre une cour qui est l'héritière du tribunal de Nuremberg, qui lutte contre l'impunité de ceux qui commettent les pires crimes, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression, génocide. C'est inacceptable, inacceptable que les États-Unis la sanctionnent parce que la Cour fait respecter le droit international.
La CPI, basée à La Haye, aux Pays-Bas, aura-t-elle encore les moyens de fonctionner? Il est question dans le décret d'un gel des avoirs aux États-Unis pour quiconque l'aiderait à faire son travail. Pour ce député européen centriste néerlandais, Gerben Jan Gerbrandy, membre de la délégation parlementaire pour les relations avec les États-Unis, la décision de Donald Trump s'inscrit dans une logique hélas très cohérente vue d'Europe.
C'est encore un signe de sa volonté d'isolationnisme. Il est en train de retirer les États-Unis de beaucoup d'organisations internationales. Le président Trump fait voler tout cela en éclats. Ça me semble très dangereux.
La Cour pénale internationale assure de son côté vouloir continuer de rendre justice et d'apporter, écrit-elle, de l'espoir à des millions de victimes innocentes d'atrocités dans le monde.
Les atrocités, on ne les compte plus. En Haïti, l'ONU annonce que les violences sexuelles envers les enfants ont été multipliées par 10 en 2024 par rapport à l'année précédente. Le pays est en proie à la violence des gangs. L'UNICEF dénonce des groupes armés qui infligent des horreurs inimaginables aux enfants, je cite. Un autre fléau est le recrutement d'enfants par les gangs. D'atrocités, il en est question, hélas, également en République démocratique du Congo. Les combats se poursuivent dans l'est de la RDC, entre les forces armées et le groupe du M23 qui gagne toujours plus du terrain, aidé par les forces rwandaises. 3 employés congolais d'une ONG suisse ont été tués en pleine opération humanitaire. Et c'est dans ce contexte que le Conseil des droits de l'homme a décidé d'envoyer une mission pour enquêter sur les atrocités commises dans la région. L'ONU craint que le conflit ne dégénère en guerre régionale. À Genève, Jérémy Lanche.
Près de 2 semaines après l'offensive du M23 sur la ville de Goma, les humanitaires ont encore du mal à donner un bilan exact du nombre de victimes. Pour le moment, l'ONU évoque près de 3000 morts pour quasiment autant de blessés. Mais le chiffre est sans doute très en deçà de la réalité, confesse le haut commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk. Il appelle toutes les parties et en premier lieu le M23 à déposer les armes.
Depuis le début de l'année, le groupe armé M23, soutenu par les forces rwandaises, a intensifié son offensive dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. En ce moment, les tensions augmentent. Si rien n'est fait, le pire est peut-être encore à venir pour les habitants de l'Est, mais aussi au-delà de la RDC.
Et si le pire est à venir, que dire de la situation actuelle? L'OMS parle d'hôpitaux submergés et bombardés, les morgues débordent de cadavres. Faute d'accès à de l'eau propre, les maladies comme le choléra se propagent. Et puis, il y a les allégations de viol et de barbarie, notamment le cas de 165 prisonnières violées et pour la plupart tuées par des détenus lors d'une évasion à Goma. Seul à même de décider de la fin des combats, les présidents congolais et rwandais doivent se retrouver demain samedi à Dar es Salaam en Tanzanie pour la première fois depuis le début de la crise.
Jérémy Lange à Genève pour RFI et France Culture. C'est la première victime des grandes purges d'Elon Musk. USAID, l'agence américaine d'aide au développement, a été décapitée. Cette agence fédérale était chargée de l'aide humanitaire et économique dans 120 pays, mais elle soutenait aussi la démocratie en finançant des médias indépendants, notamment en Hongrie. Sans cette aide américaine, ces médias risquent de mettre la clé sous la porte pour le plus grand bonheur du Premier ministre Viktor Orban, qui se félicite du coup de force de Donald Trump à Budapest. Florence Labrière.
Les autocrates du monde entier applaudissent la fin de l'USAID, l'agence américaine d'aide au développement. Et Viktor Orban n'est pas en reste. La gauche hongroise nous a critiqués pendant des années parce qu'elle était financée par USAID. Le monde entier doit dire merci à Donald Trump, écrit le premier ministre hongrois sur X. Viktor Orban et son clan contrôlent 80% du paysage médiatique en Hongrie. Mais il reste quelques médias indépendants, comme le site web Atlatso. Ce journal est réputé pour ses enquêtes sur la corruption. Il a révélé que le gendre de Viktor Orban achetait à tour de bras des immeubles appartenant à l'État à un prix bien inférieur à celui du marché. Pas étonnant qu'Atlatso soit accusé par le pouvoir d'être un agent de l'étranger. Le désengagement financier américain risque de porter un coup fatal au journal, car 40% de son budget vient de l'aide américaine. Un autre média hongrois, le journal web L'Europe Libre, est également menacé. Il était financé à 100% par USAID. Dans le document Projet 2025, qui sert de feuille de route à l'administration Trump, il est écrit noir sur blanc que les États-Unis doivent couper les vivres au journal. De bonnes nouvelles pour Viktor Orban. L'homme fort de Budapest avait déjà muselé ou racheté une bonne partie de la presse. Le désengagement américain va lui faciliter le travail.
Florence Labruyère à Budapest. Cette information, on apprend que le Hamas vient de publier les noms de 3 otages israéliens libérables demain en échange de prisonniers palestiniens. Le 5e échange depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 19 janvier dernier. Ce soir, je vous propose de nous pencher sur un mystère bien gardé, sur les affirmations d'une télévision de Kiev. Vladimir Poutine a-t-il une fille cachée qui était étudiante à Paris? C'est ce qu'affirme une chaîne de télévision ukrainienne. Bonsoir Maxime Tellier.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à la cellule d'investigation de Radio France. Vous avez enquêté sur le parcours de cette jeune femme qui entretient elle-même le mystère. Alors, on va procéder par étapes. Qui est-elle, en surface ou officiellement?
Oui, elle s'appelle Elisaveta Krivanogik. Elle a 21 ans et elle ressemble étonnamment à Vladimir Poutine, même regard, même trait du visage. Pendant longtemps, elle a été très active sur les réseaux sociaux où on la voit faire la fête comme DJ dans un bar de Moscou. Elle lance même sa propre marque de mode. Elle visite le Louvre et séjourne dans de grands hôtels parisiens. Et durant 4 ans, justement de 2020 à juillet 2024, Elisaveta Krivanogik a été étudiante près des Champs-Élysées dans une école qui forme au métier de l'art et de la culture, l'ICAR, c'est son nom. Sur place, des élèves m'ont confirmé sa présence. Elle est décrite comme étant discrète, sans garde du corps, ne parlant jamais de politique et encore moins de son père. Elle s'était inscrite sous un faux nom dans cette école dont elle est sortie l'été dernier. Après, on a perdu sa trace.
Et alors Maxime, qu'est-ce qu'elle dit de son lien avec Vladimir Poutine?
Alors là-dessus, elle entretient l'ambiguïté. Écoutez l'échange qu'elle a eu avec le journaliste russe Denis Kataev, qui vit réfugié en France aujourd'hui et qui l'avait interviewé pour un média russe en 2021.
Avez-vous déjà rencontré Vladimir Poutine en personne?
Je ne répondrai pas à cette question.
Une dernière question sur ce sujet alors. En reformulant une question célèbre, si vous rencontriez Vladimir Poutine, quelles questions lui poseriez-vous?
Je ne sais pas. Je poserai probablement une question.
Et quelle question?
Pourquoi?
Bon, alors comment interpréter cette réponse un peu énigmatique? Eh bien, écoutez là-dessus le commentaire de Denis Kataev, toujours, qui a peu de doutes sur leur lien parental.
J'ai l'impression, elle accuse Poutine. Pourquoi tu as agi ainsi avec moi? Pourquoi je ne peux pas mener une vie ouverte et normale comme mes amis en Russie et en Europe? Pourquoi je dois éternellement répondre à des questions sur toi? Pourquoi l'ombre de Poutine me poursuivra toujours.
Et j'ajoute que d'autres journalistes russes d'investigation disent aussi avoir retrouvé le certificat de naissance de cette jeune femme. Le nom du père n'est pas indiqué sur ce document, mais on peut y lire Vladimirovna, la fille de Vladimir, en russe.
Maxime, il y a une autre personne très intrigante dans cette histoire, c'est sa mère.
Oui, Svetlana Krivanogik, 50 ans, une ancienne femme de ménage qui, au début des années 2000, croise la route de Vladimir Poutine. D'après le média russe d'investigation Project, ils deviennent proches et voyagent même en avion ensemble, et au moment de la naissance de sa fille en 2003, elle s'enrichit soudainement.
Dans les mois précédant la naissance de sa fille, Svetlana achète un appartement dans le centre de Saint-Pétersbourg qui vaut aujourd'hui 500 000 euros. Sa famille achète aussi de l'immobilier à Moscou, dans un quartier chic, un appartement à 3 millions d'euros. Et ce n'est pas tout. D'après nos calculs, le patrimoine immobilier de sa famille se monte à 10 millions d'euros.
Voilà, c'est un extrait du reportage de ce média Project, des révélations qui ont été démenties par le Kremlin, d'autant plus que cette question ultra sensible de la vie privée se mélange à celle de l'argent. Je précise que tous les médias russes qui ont enquêté sur ce sujet, que nous avons contacté pour cette enquête, sont interdits en Russie, considérés comme une menace pour la sécurité nationale.
Merci Maxime Tellier de la cellule Investigation. Votre enquête est à retrouver sur radiofrance.fr. Le temps demain, beaucoup de pluie sur le Languedoc, la région PACA et au pied des Cévennes, quelques éclaircies sur l'ouest et sur l'Alsace. Les températures maximales de 6 à 8 degrés sur le nord, de 6 à 9 sur le sud-ouest et jusqu'à 13 degrés autour de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal. À la technique, Jean-Guilain Meige.